Merci d'écouter RFI, il est 1h à Paris, 23h en temps universel.
Mathis Limano.
De nouveaux échanges de frappes signalés dans la soirée entre l'Iran et Israël. Une femme est morte au nord de l'État hébreu dans la région d'Haïfa. Des tirs de missiles ont touché des habitations. 14 autres personnes ont été blessées. En représailles, Israël a visé le ministère de la Défense à Téhéran ainsi que deux dépôts de carburant de la capitale. Ce soir, la Jordanie annonce fermer son espace aérien. 21 coups de canon ont sonné le départ de la parade militaire à Washington. Sous l'œil de Donald Trump, des milliers de soldats défilent en ce moment dans la capitale américaine, dans un contexte de manifestations massives et du meurtre d'une élue démocrate. Et puis, le foot joue les prolongations. Si vous ne pouvez pas attendre la reprise des championnats nationaux, la Coupe du Monde des clubs s'ouvre pour un mois. Coup d'envoi du match d'ouverture dans une heure. Les échanges de frappes se sont donc poursuivis dans la soirée entre l'Iran et Israël. L'État hébreu visé par une nouvelle salve de missiles. La population a dû rester confinée dans les abris pendant de longues minutes. Les secours font état de frappes sur des immeubles d'habitation sur la côte et au nord du pays, notamment près de la ville d'Haïfa. Une femme est morte, 14 autres personnes ont été blessées. Réponse immédiate d'Israël qui a bombardé le ministère de la Défense à Téhéran ainsi que deux dépôts de carburant de la capitale. Mais le cœur de cible demeurent les sites nucléaires iraniens. Benjamin Netanyahou s'est félicité d'avoir infligé un coup réel au programme nucléaire de l'Iran. Alors est-ce suffisant pour le compromettre? Rien n'est moins sûr pour le maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique Benjamin Hautecouverture.
On sait que nombre d'installations sont clandestines et que parmi ces installations clandestines, nombre d'entre elles sont souterraines. C'est notamment le cas de l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo. Et pour ce qui est des centres de conversion de l'uranium, c'est-à-dire pour convertir l'uranium et en faire un uranium de qualité militaire, on ne sait pas dans quelle mesure ça a été touché. Mais ce que l'on sait, c'est que non, il est aujourd'hui impossible de réduire à néant et de revenir au balbutiement du programme tel qu'il était dans les années 1990, ne serait-ce que parce qu'il y a eu des générations d'ingénieurs qui ont été formés et qui travaillent et que par conséquent le savoir et le savoir-faire iranien sont là. Et ils le sont de manière, je dirais, presque définitive, sauf à attendre la mort de tous ces gens dans 40 ou 50 ans. Donc, non, le programme nucléaire iranien n'est pas mort par l'opération Un peuple se lève comme un lion.
Par ailleurs, Téhéran annonce ne plus coopérer comme auparavant avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, fustigeant son silence après les frappes israéliennes sur des installations nucléaires. Quant aux négociations prévues aujourd'hui avec les États-Unis, le médiateur roumain a annoncé qu'elles n'auraient pas lieu, Téhéran les jugeant vides de sens. Le président Pezeshkian allant jusqu'à taxer Washington de malhonnêteté dans son soutien à Israël. Washington, où il est 19h03, les premiers soldats et véhicules se sont élancés sous l'œil de Donald Trump, du Lincoln Memorial à la Maison Blanche pour une parade militaire inédite. Officiellement pour célébrer les 250 ans de l'armée américaine, l'événement tombe le jour du 79e anniversaire du président américain. En parallèle, 2000 rassemblements se sont tenus à travers tout le pays, de New York à Los Angeles. Cette journée de mobilisation baptisée No Kings, pas de roi, était organisée pour protester contre le mandat de Donald Trump jugé autoritaire, notamment contre les migrants. Écoutez cette manifestante Heather, elle dénonce le déploiement de la garde nationale dans la Cité des Anges.
Oui, c'est très perturbant de les voir au coin des rues de notre ville, parce qu'ils ne sont pas là en général. Et vous savez, j'ai participé à certaines marches la semaine dernière. Et les manifestations étaient très pacifiques, jusqu'à ce que la garde nationale et la police se soient mises à provoquer les gens avec leurs chevaux ou à lancer du gaz lacrymogène contre des gens vraiment sans défense. Bref, ça ne s'est pas passé exactement comme les médias l'ont montré à la télé. La grande majorité des milliers de personnes dans les rues venaient marcher pacifiquement et malgré tout, elles étaient autant visées que ceux qui étaient violents.
Cette journée de manifestation anti-Trump et de parade militaire endeuillée par un assassinat politique. Les mots du gouverneur du Minnesota, l'État du Nord des États-Unis, où une élue démocrate a été abattue par balle avec son mari. Le tireur est toujours activement recherché. Un autre élu et sa femme ont été blessés dans ce que Donald Trump a qualifié de terrible attaque. Le locataire de la Maison Blanche qui a décroché son téléphone pour échanger avec Vladimir Poutine, outre un appel commun à stopper le conflit entre Israël et l'Iran, les deux hommes ont évoqué la guerre en Ukraine, guerre qui pourrait être oubliée aux dépens de l'escalade au Moyen-Orient. C'est en tout cas la crainte de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a dit sur ses réseaux sociaux regretter un recul du soutien occidental et a appelé Donald Trump à changer de ton avec Vladimir Poutine. Et malgré les combats qui se poursuivent, Kiev et Moscou ont procédé à un échange de prisonniers, Heike Schmidt.
Sur des photos publiées par le président ukrainien sur Telegram, on voit des soldats en treillis enveloppés dans des drapeaux ukrainiens. Pour la plupart, la tête rasée, ils descendent des bus et embrassent ceux qui sont venus les accueillir. D'autres sont blessés. Côté russe, le ministère de la Défense a publié une vidéo montrant des hommes brandissant des drapeaux en scandant gloire à la Russie. Pour la quatrième fois cette semaine, les deux pays ont procédé à un échange de prisonniers dans le cadre des accords conclus à Istanbul début juin, mais sans révéler combien d'hommes ont pu être libérés. Kiev a tout juste indiqué avoir reçu 1200 corps supplémentaires de soldats tués. À l'heure où le monde a les yeux rivés sur la confrontation entre Israël et l'Iran, l'Ukraine a exprimé ce samedi sa crainte d'en faire les frais. Évoquant les frappes échangées entre Téhéran et Tel Aviv, Volodymyr Zelensky a dit espérer que l'aide occidentale à Kiev ne baissera pas, comme cela fut déjà le cas lors de la précédente escalade militaire en octobre dernier.
Heike Schmidt, l'escalade avec l'Iran qui ne détourne pas Israël de son offensive dans la bande de Gaza, un front secondaire d'après le gouvernement israélien. Au moins 41 personnes sont mortes hier dans l'enclave. La plupart attendaient de récupérer des colis d'aide humanitaire. Gaza, où l'accès à Internet a été rétabli, il était coupé depuis jeudi en raison d'une attaque sur un câble imputé à Israël, d'après le ministère palestinien des télécommunications.
RFI, la radio du monde.
Et coup d'envoi dans moins d'une heure de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. La première dans un format XXL, 32 équipes de tous les continents sur la ligne de départ pour un peu plus d'un mois de compétition. En match d'ouverture, l'Inter Miami accueille le Al Ahly du Caire. L'Inter Miami, le club d'un certain Léo Messi, a bientôt 38 ans. L'Argentin brille en Floride, où il est devenu en 2 ans et demi une icône, un ambassadeur dans un pays où le soccer est loin d'être le sport roi. À Miami, Thomas de Saint-Léger.
C'est un temple Messi en plein Miami. Des chaussures siglées au célèbre maillot rose numéro 10, le plus vendu au monde, tout y est. Ici, l'homme au pied gauche magique est une marque, sa présence une révolution pour le sport américain. Michel Kaufmann, journaliste au Miami Herald.
Il y a un avant et un après Messi. Partout où il va, il y a des centaines de personnes qui l'attendent devant son hôtel. On n'avait jamais vu ça pour un footballeur, même pour un basketteur de la NBA. Messi, c'est comme une religion.
Un culte pour les adeptes, une source de curiosité pour les autres. Messi fait venir les Américains dans les stades de soccer et pas seulement là où les communautés latinos sont très présentes.
Quand l'Inter Miami joue à l'extérieur, les adversaires déplacent le match dans des stades plus grands, dans des stades de football américain. Et les gens viennent pour avoir la chance de voir Messi jouer.
Un effet Messi dont bénéficie toute la MLS, la Ligue de soccer nord-américaine. Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami, et ancien coéquipier du numéro 10 avec la sélection argentine.
C'est le moment idéal pour se développer. Léo joue dans le championnat, il y a le mondial des clubs cette année, la Coupe du Monde l'été prochain. Et évidemment, Léo a une influence majeure dans tout ça.
Mais même la magie, Messi a ses limites. Faute de demande suffisante, les billets pour le match d'ouverture ce soir sont vendus à prix cassé. 65 000 spectateurs sont espérés. Thomas Saint-Léger, Miami RFI.
Et dimanche soir, place aux hommes de Luis Enrique. Les Parisiens, favoris après leur succès en Ligue des Champions, retrouveront l'Atlético Madrid. Les Néo-Zélandais d'Auckland auront eux fort à faire face aux Allemands du Bayern de Munich. Et puis c'est une copie qui s'avère au final être un original. En Gironde, une peinture du maître baroque italien Guido Reni a été authentifiée après des mois d'enquête. Il s'agit du tableau Atalante et Hippomène datant du XVIIe siècle. Il reposait dans la réserve du musée de Libourne pendant des années sans attirer l'attention. Une grande maîtrise des ombres a notamment convaincu un comité scientifique de son authenticité. Il n'existe que 3 autres exemplaires d'Atalante et Hippomène dans le monde, dans des musées à Madrid et à Naples. Merci d'écouter RFI, il est presque 1h10 à Paris, 2h de moins, Antoine Iversel. L'actualité sur la radio New Monde revient dans moins d'une heure.